Bonsoir à tous et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi, du lundi 23 septembre 2024, en direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. En Tanzanie, la police a arrêté des leaders qui prévoyaient une manifestation. L'armée israélienne dit qu'elle va mener de nouvelles frappes de grande envergure dans l'est du Liban. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky poursuit son séjour aux États-Unis. Après sa visite dans une usine d'armement en Pennsylvanie, il rencontre aujourd'hui son homologue américain Joe Biden. Et dans notre partie magazine, le président Joe Biden prononce cette semaine son dernier discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. Une question se pose, le conflit au Moyen-Orient et la manière dont ses actions l'ont influencé. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Sécurité renforcée autour du siège des Nations Unies à New York ce lundi 23 septembre à l'occasion du lancement de l'Assemblée générale des Nations Unies. Au total, 142 dirigeants mondiaux devraient assister au débat général de cette année qui débute demain mardi. Alexandrine Hollognon.
La police de New York a confirmé qu'il n'y avait aucune menace crédible pour la sécurité à l'horizon de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. L'édition 2024 de la Grande Messe des Nations Unies est la première depuis l'attaque du 7 octobre en Israël et la guerre qui s'en est suivie à Gaza. Des manifestations sont attendues, ainsi que celles liées à l'Iran et au Venezuela. Hier, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un pacte pour l'avenir afin de relever les défis du 21e siècle. Le pacte de 42 pages a été adopté à l'ouverture d'un sommet de l'avenir de deux jours qui se poursuit ce lundi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a remercié les 193 membres de l'organe mondial d'avoir approuvé le pacte et d'avoir ouvert la voie à l'Union des Nations pour relever des défis allant du changement climatique à l'intelligence artificielle, en passant par l'escalade des conflits et l'accroissement des inégalités et de la pauvreté, et pour améliorer la vie de plus de 8 milliards de personnes dans le monde.
La marine sénégalaise a retrouvé dimanche une embarcation dérivant à quelques dizaines de kilomètres au large de Dakar, avec au moins 30 corps sans vie à bord, a indiqué l'armée dans un communiqué qui ajoute que des investigations sont en cours pour établir la provenance de la pirogue et préciser le bilan humain du drame. Les côtes sénégalaises sont le théâtre d'une succession de drames de la migration irrégulière à destination de l'Europe. Au moins 39 personnes avaient péri il y a 15 jours dans le naufrage d'une pirogue surchargée à Mbour dans l'ouest. De nombreux autres sont portés disparus. La police ghanéenne a arrêté dimanche 42 manifestants dans la capitale Accra après que des affrontements ont éclaté lors de manifestations contre la vie chère et la gestion par le gouvernement de l'exploitation minière illégale connue localement sous le nom de Galamsey. Les manifestations organisées par le groupe de la société civile Democracy Hub ont commencé vendredi et devaient se poursuivre jusqu'à lundi. L'approche de l'élection présidentielle en décembre accroît les tensions politiques dans ce pays de 33 millions d'habitants qui bénéficient d'un plan d'aide du Fonds monétaire international FMI de 3 milliards d'aide. La police tanzanienne a arrêté ce lundi 14 membres du Chadema, principal parti d'opposition, qui avait appelé à braver une interdiction des autorités et à manifester dans la capitale économique Dar es Salaam contre la disparition de certains de ses militants. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Parmi les premiers arrêtés figurent le président du Chadema, Freeman Mbowe, et le vice-président, Tundu Lissou. Monsieur Mbowe a été arrêté alors qu'il s'adressait à des journalistes dans le quartier de Magomeni, l'un des points de départ prévus pour la manifestation. Manifester est notre droit constitutionnel, mais nous sommes surpris de l'ampleur de la force utilisée par la police pour menacer les gens et supprimer notre liberté, a-t-il déclaré au moment de son interpellation. L'important déploiement depuis samedi de forces anti-émeutes a dissuadé tout rassemblement et l'activité était largement normale ce lundi dans la principale ville du pays. Le Chadema avait appelé à une manifestation après le meurtre d'un de ses dirigeants, Ali Mohamed Kibao, enlevé par des hommes armés et retrouvé mort le 7 septembre. L'opposition dénonce une répression croissante contre elle à quelques mois des élections locales de fin novembre qui seront suivies l'an prochain d'élections présidentielles et législatives. Selon un collectif d'avocats, la Tanganyika Law Society, 83 personnes ont été enlevées ou ont disparu entre 2016 et 2024.
Au Nigeria, le parti au pouvoir a remporté l'élection au poste de gouverneur de l'État d'Edo dans le sud du pays, a annoncé la commission électorale, ce que le président Bola Tinubu a interprété comme un soutien à ses réformes économiques. L'État d'Edo, dont la capitale régionale est Benin City, la quatrième plus grande ville du pays, le plus peuplé d'Afrique, est traditionnellement un fief du principal parti d'opposition, le People's Democratic Party, PDP. L'annonce a été accueillie de manière mitigée dans les rues de Benin City, les partisans du PDP contestant les résultats. Un tribunal zimbabwéen a refusé lundi pour la troisième fois depuis leur arrestation en juin la libération sous caution du chef de l'opposition et de 64 de ses partisans avant un sommet, une vague d'interpellations dénoncée par des ONG. Jameson Timba, de chef de la principale coalition d'opposition, les Citizens Coalition for Change, et ses partisans ont été arrêtés à son domicile le 16 juin dans le cadre de ce que les groupes de défense des droits ont qualifié de répression à l'approche d'un sommet de l'Afrique australe prévu le mois suivant.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne a indiqué ce lundi que des frappes aériennes ont touché environ 800 cibles du Hezbollah dans le sud du Liban et dans la région de la Beka à l'intérieur du territoire libanais. Cette escalade entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran, fait redouter une spirale incontrôlable, inquiétant la communauté internationale. Le point avec Eric Manilakidza.
Depuis ce matin, l'armée a mené des frappes aériennes préventives de grande envergure contre des cibles terroristes du Hezbollah au Liban, a-t-elle précisé dans un communiqué. Selon les autorités libanaises, les frappes israéliennes ont fait plus de 270 morts ce lundi au Liban, dont 21 enfants. Le premier ministre libanais Najib Mikati a dénoncé un plan de destruction de son pays où les écoles ont fermé pour 2 jours dans l'ensemble du pays. Les États-Unis, principal allié d'Israël, ont exhorté leurs ressortissants à quitter le Liban. La Chine a appelé ses ressortissants à quitter Israël au plus vite, tandis que le Kremlin s'est dit très inquiet. Dimanche, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est inquiété que le Liban devienne un autre Gaza. La force intérimaire des Nations Unies au Liban, FINUL, a mis en garde contre les conséquences régionales dévastatrices d'une escalade supplémentaire et exprimer sa grave préoccupation pour la sécurité des civils dans le sud du Liban. Le président de l'Iran a accusé Israël de vouloir élargir le conflit au Moyen-Orient, soulignant que cela ne bénéficierait à personne, tandis que le Hamas a dénoncé une agression barbare. L'Égypte a affirmé redouter une guerre totale dans la région, avertissant que l'escalade entre Israël et le Hezbollah pourrait saper les efforts pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky poursuit sa visite ici aux États-Unis. Il doit présenter à son homologue américain Joe Biden et au Congrès son plan de la victoire visant à mettre fin à l'invasion russe de son pays. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
À son arrivée hier, le président Volodymyr Zelensky s'est rendu dans une usine d'armement en Pennsylvanie qui produit notamment des obus 100 mm très utilisés par l'Ukraine face aux forces russes. Le chef d'État ukrainien doit se rendre à New York et à Washington, où il sera reçu jeudi par Joe Biden à la Maison-Blanche. Estimant que cet automne sera décisif pour la suite de la guerre, Volodymyr Zelensky a annoncé que son homologue américain serait le premier à voir dans le détail ses propositions pour mettre fin au conflit avec la Russie qui a débuté en février 2022. Il entend aussi présenter son plan au Congrès ainsi qu'aux 2 candidats à la présidentielle, la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump. Zelensky veut tenter de convaincre Joe Biden d'autoriser Kiev à frapper des cibles en Russie avec des armes occidentales à longue portée. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi à convaincre la Maison-Blanche d'assouplir ses restrictions. Le président Vladimir Poutine a averti que la Russie serait en guerre avec les États-Unis et ses alliés de l'OTAN s'ils autorisaient l'Ukraine à utiliser des armes à longue portée.
Ici aux États-Unis, les chefs de file du Congrès ont annoncé dimanche un accord visant à prolonger le budget du gouvernement jusqu'à la mi-décembre et éviter une paralysie de l'État fédéral avant l'élection de novembre. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Le prix du cobalt est en baisse depuis 2 ans sur les marchés mondiaux. Il a atteint la semaine dernière son plus bas niveau depuis janvier 2016. Premier producteur mondial, la RDC s'inquiète. Ecofin précise que la baisse des revenus d'exportation du cobalt induite par la chute des cours pourrait réduire les réserves de devises étrangères et rendre plus difficile le financement des importations de la RDC. L'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO a réuni à Freetown les experts du marché numérique de 9 États membres pour renforcer la régulation, tenter de garantir un fonctionnement équitable du marché et mieux protéger les intérêts économiques des consommateurs. Le marché numérique est un secteur clé pour la croissance économique, notamment des micro, petites et moyennes entreprises. L'OMC a accepté de trancher un conflit commercial entre la Chine et les États-Unis sur les subventions américaines au secteur des véhicules électriques qui engendrent une concurrence déloyale selon la Chine. Les États-Unis ont annoncé en 2022 un programme d'aide massive pour soutenir les entreprises du secteur de la transition énergétique et les voitures électriques fabriquées sur le sol américain.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Le football avec les coupes africaines des clubs, on connaît les qualifiés pour la phase de poule.
Oui, en Ligue des champions, qualification historique des Maliens de Djoliba, vainqueur 1-0 à Lomé des Togolais de Lasco de Cara. Une première aussi pour les Angolais de Sagrada Esperança qui ont sorti les Nigériens des Nungo Rangers. De même pour le stade d'Abidjan malgré sa défaite 2-1 face au Guinée de Milo FC. En revanche, ça cale pour le second club ivoirien, le FC San Pedro, battu 1-0 par les Soudanais d'Al Hilal.
Et pour les autres qualifiés, les favoris sont au rendez-vous.
À commencer par le tenant du titre Al Ahly du Caire ainsi que son compatriote Pyramide FC. Les deux clubs sud-africains aussi avec la qualification de Mamelodi Sundowns et d'Orlando Pirates, tout comme les deux représentants de la République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe et Maniema Union qui a écarté les Angolais du Petro de Luanda. Ça passe également pour les Marocains du Raja de Casablanca ainsi que les militaires d'Asfa, de Rabat. Pareil pour les Algériens du Mouloudia et du CR Belouizdad tombèrent au tir au but des Burkinabés de l'AS Douane. Finaliste la saison passée, l'Espérance de Tunis s'est facilement qualifiée suite à son succès 8-0 aux dépens des Somaliens de Dekandaha.
En Coupe de la Confédération, le Zamalek du Caire défendra son titre.
Les Chevaliers Blancs du Caire sont en phase de poule après avoir battu 2 fois les Kenyans de Police FC. Double victoire aussi, 2-0 et 5-0 de la Renaissance de Berkane, opposé aux Béninois de Dadje FC d'Alpha Way. Qualification également des Algériens du CS Constantine, des Tunisiens du club sportif sfaxien, des Tanzaniens de Simba et du Stade Malien. Le club de Bamako n'a pas tremblé pour venir à bout des Libériens de Pensville. L'entraîneur Mamoutou Kané se réjouit de cette première qualification.
Les joueurs, ils avaient faim de cette qualification. Ils ont montré dans le jeu, dans la capacité d'agressivité. Ensuite, on a vu en eux, ils étaient motivés pour gagner ce match. Vous savez, à un match, à un moment donné, c'est le cœur, c'est l'agressivité, la rage de vaincre, la rage de gagner pour se qualifier. C'est ce qui a fait aujourd'hui qu'on a marqué et on n'a pas pris plus. Didi, allons-y jouer dans leur camp. On les met la pression, ne jouez pas dans notre camp. C'est ce qui a fait qu'on est resté dans leur camp jusqu'à la fin du match. Le football, c'est comme ça. Je dis bravo aux joueurs.
Mamoutou Kané, Dimourlé, entraîneur du stade malien de Bamako, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant dans la capitale malienne.
Et enfin, les Ivoiriens de la SEC d'Abidjan seront aussi en phase de groupe.
Les Mimos ont renversé les Togolais de la SEC qui les avaient battus à l'aller. Les Nigériens de Nimba y seront aussi. Après leur succès contre les Burkinabés de l'étoile filante de Ouagadougou, pareil pour le Jaraf de Dakar, facile vainqueur 3-0 du Racing Club d'Abidjan. Déception par contre pour les deux clubs de la RDC tous éliminés, l'AS Vita Club de Kinshasa par les Sud-Africains de Stellenbosch et le Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi par les Angolais du Bravos Maki. À noter que la date du tirage au sort de la composition des groupes des deux compétitions est prévue pour le 7 octobre prochain.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounetzero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Joe Biden prononce son dernier discours présidentiel devant l'Assemblée générale des Nations unies cette semaine. Alors qu'il monte sur le podium de marbre vert pour la dernière fois, le président Biden devrait rencontrer séparément d'autres dirigeants à New York sur le conflit au Moyen-Orient. Anita Powell a fait le reportage depuis New York. Récit Blanc Sanou.
C'est la dernière fois que le président Joe Biden s'adressera à un forum international majeur où des centaines de dirigeants se réunissent chaque année pour l'Assemblée générale des Nations unies. Cela arrive à un moment crucial, a déclaré Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations unies.
We say this every year.
Nous le disons chaque année, mais cette Assemblée générale des Nations unies intervient à un moment plus critique et plus difficile dans le monde. La liste des crises et des conflits qui exigent une attention et une action ne semble que s'allonger.
En tête de liste, Gaza. La position des États-Unis n'est pas en phase avec le reste de l'Assemblée qui a adopté la semaine dernière à une écrasante majorité une résolution exigeant qu'Israël mette fin à son occupation du territoire palestinien dans les 12 prochains mois. Les États-Unis figuraient parmi les 14 votes à dire non, ce qui, selon Thomas Greenfield, correspond à l'opposition de Washington aux mesures unilatérales qui sapent la perspective d'une solution à deux États. Les analystes s'attendent à ce que Biden discute de son soutien à Israël et à l'Ukraine dans son discours de cette année. Il souligne ces deux conflits comme des défis majeurs à la fin de sa présidence. Jim Kessler est le vice-président exécutif pour la politique Shelterway.
Avec le Moyen-Orient, cela ressemble à ce que vous savez. Comment garder le couvercle sur cela et espérer que le conflit ne dégénère pas en une guerre régionale? Et je pense que c'est la meilleure hypothèse que l'on puisse se faire sur ce qui va se passer.
Malheureusement, une chose est claire, le conflit aura bientôt un an avec plus de 100 otages qui restent détenus par le Hamas. La Maison-Blanche affirme que leur rapatriement est sa priorité absolue et le pilier essentiel d'un accord visant à mettre fin au combat en Israël et le groupe militant. Jim Kessler a déclaré que de nouveaux dirigeants accueilleront chaleureusement Biden lors de son discours d'adieu car il a utilisé son mandat pour reconstruire des alliances et établir des normes mondiales. Jim Kessler à nouveau.
Il y a beaucoup d'affection pour lui dans la plupart des pays, bien sûr. Il y en a quelques-uns où il n'y en a pas.
Le président Joe Biden devrait s'exprimer à New York mardi.
Alexandrine Prol, on y aura avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, plus de 130 chefs d'État et de gouvernement sont à New York pour la grande messe annuelle de l'ONU. C'est l'occasion pour la délégation des États africains de réclamer davantage de place pour le continent au sein des instances de l'organisation internationale. Les États-Unis ont récemment annoncé leur soutien à la création de deux sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour des pays africains, mais sans droit de veto dans le cadre d'une réforme hypothétique de cet organe clé des Nations Unies. Pensez-vous que les Nations Unies devraient être reformées pour mieux refléter les réalités géopolitiques actuelles? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum sur VOA Afrique, voafrique.com, rediffusion samedi et dimanche.
Ici aux États-Unis, les législateurs des deux principaux partis politiques ont appelé à calmer la rhétorique enflammée dans le pays 6 semaines avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Cette décision fait suite à une deuxième tentative d'assassinat visant l'ancien président Donald Trump et ses affirmations selon lesquelles les immigrés mangeraient les animaux de compagnie. Des gens ont mis une communauté haïtienne de l'Ohio sur les nerfs. Davantage avec Arash Arabasadi, récit Yacouba Ouedraogo.
Le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, a tenu son premier meeting en plein air depuis la tentative présumée d'assassinat dimanche dernier. Trump a imputé l'incident à la rhétorique du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris. Dans une déclaration publiée sur le site de la Maison-Blanche, la vice-présidente Harris, candidate démocrate, s'est dite profondément troublée par cette nouvelle tentative d'assassinat, ajoutant qu'elle condamne la violence politique. La Chambre des représentants a récemment adopté un projet de loi visant à augmenter les fonds alloués aux services secrets. Tous les membres présents ont soutenu la mesure.
The bill is passed and without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
Take a look at what happened.
Les services secrets ont reconnu avoir échoué à assurer la sécurité de Trump lors de la première tentative d'assassinat en Pennsylvanie, au cours de laquelle une balle l'a atteint à l'oreille. La formation d'un groupe de travail bipartisan chargé d'enquêter sur ces tentatives et sur les causes de cette vague de violence a été annoncée dimanche par les dirigeants démocrates et républicains. Le chef du groupe de travail et représentant républicain Mike Kelly dans l'émission This Week sur ABC.
Quelque chose nous est arrivé. Notre culture a été grandement affectée. Les deux cas disent parfois des choses. Avec du recul, on s'est dit que ce n'est pas ce que l'on voulait dire, mais ce n'est qu'ainsi que les choses ont été perçues. Il faut faire attention à ce que l'on dit et à la manière dont on le dit.
Le chef du groupe de travail et représentant démocrate, Jason Crow, dans l'émission This Week sur ABC.
Il y a une grande différence entre le fait d'avoir des débats difficiles pendant une saison politique, ce que nous devons faire, et le fait de condamner la violence politique et de dire qu'il n'y a pas de place dans notre société américaine pour que quelqu'un prenne des mesures de son propre chef et y recourt à la violence.
Par ailleurs, Trump a continué à dire que des immigrants haïtiens à Springfield, dans l'Ohio, enlevaient et mangeaient les animaux de compagnie des gens. Des affirmations réfutées par le gouverneur de l'Ohio et le maire de la ville, tous deux républicains. Mais un message accompagné de menaces d'attaque à la bombe et de menaces personnelles ont ébranlé la communauté haïtienne. Baptiste, migrant haïtien, a parlé à la VOA.
Comme nous sommes haïtiens, lorsque des nouvelles de ce genre sont publiées dans les médias, elles nous font peur. Nous sommes simplement à la recherche d'une vie meilleure.
Trump s'adressant à ses partisans, selon l'Associated Press.
Si Kamala Harris est réélue, elle va tuer à jamais le rêve américain. Elle n'est pas non plus compétente pour être présidente. Je ne veux pas être impoli. Je ne veux pas être grossier. Elle n'est pas compétente pour être présidente.
Vice-président Tim Walz, lors d'un rassemblement en Pennsylvanie, apporte sa réplique.
Nous avons des gens qui se présentent au poste de gouverneur en tant que républicains et qui sont fiers de se qualifier de nazis. Ne prétendons pas qu'il y a une différence graduelle entre les personnes qui se présentent ici.
Le vote anticipé a déjà commencé dans certains États avant les élections du 5 novembre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Gabon, les députés et sénateurs de la transition réunis en assemblée constituante ont achevé hier l'examen du projet de constitution débuté le 12 septembre. D'après Jean-François Ndongou, président de l'assemblée constituante, ce projet de constitution veille à la séparation des pouvoirs, au renforcement des droits et des libertés individuelles. Le rapport contenant les recommandations sera remis au président de la transition, Brice Oligui Nguema. Le texte doit ensuite être adopté au Conseil des ministres, puis soumis à un référendum d'ici la fin de l'année, selon le calendrier annoncé. Yacouba Ouedraogo a joint à Paris, en France, Aouchka Moustapha, présidente de l'association Trop c'est trop.
Il y a quand même eu 801 amendements et ça pose un problème en termes de démocratie, puisqu'il parle de recul de la démocratie, la séparation des pouvoirs est remis en question, puisque aujourd'hui, le président de la République serait le président de la magistrature, en gros le chef du gouvernement. Donc on repart sur un régime présidentiel où là, il y a une véritable problématique qui se pose. Et puis, il y a une exclusion de certains Gabonais qui épouseraient des femmes ou des hommes d'origine étrangère. Je suis mariée à un Béninois, par exemple, aujourd'hui, je suis exclue d'une éventuelle présentation en tant que président de la République. Donc ça pose quand même une problématique. Et aujourd'hui, on s'interroge sur l'avenir du Gabon, en tout cas en ces termes-là.
On va rappeler que c'est jusque-là, c'est un projet de constitution et donc pas encore adopté, pas encore passé au référendum. Vous parlez justement de l'exclusion d'une certaine catégorie de Gabonais qui seraient mariés à des étrangers. En quoi c'est une exclusion?
Les Gabonais qui sont ou issus de parents étrangers ou épousant un étranger ou une étrangère, hein, peu importe si c'est une femme, selon si c'est une femme ou si c'est un homme qui se présente à l'élection présidentielle, ne sont pas autorisés à se présenter. Donc la candidature sera de fait rejetée. Et il en est de même pour nous qui sommes en diaspora. Si aujourd'hui vous êtes en diaspora, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Donc il y a une exclusion de fait.
Justement, vous parlez d'un régime présidentiel, effectivement, sans premier ministre. Quelle est votre appréciation?
Il va y avoir un premier ministre, vraisemblablement, qui s'occupera des réunions interministérielles, mais le pouvoir sera gardé par le président de la République. Donc ça pose vraiment une problématique. Est-ce que le président de la République sera en capacité de régler toutes les problématiques? Ne faut-il pas qu'il y ait une délégation de pouvoir? N'est-ce pas la raison pour laquelle il y a un chef du gouvernement? C'est autant de questions que nous nous posons aujourd'hui.
Il y a un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une fois. Vous avez parlé de recul de 50 ans. Pourquoi?
Ben parce que les Gabonais se sont interrogés déjà sur cette question-là à l'époque de l'ancien régime. Et aujourd'hui, avec l'espoir qui est né en août 2023, une des raisons pour lesquelles les Gabonais étaient aussi un peu impatients d'avoir ce projet de constitution, c'était de voir et de revoir les conditions d'éligibilité du président de la République. 7 ans, c'est trop. 5 ans, ça me paraît raisonnable.
Aouchka Mustapha, présidente de l'association Trop, c'est trop.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
L'ancien basketteur français et star de la NBA, Tony Parker, désormais à la retraite, s'est rendu en République démocratique du Congo pour une visite de 3 jours la semaine dernière. Après avoir rencontré les autorités congolaises à Kinshasa, Tony Parker a visité une académie de basketball. Claire Morin-Gibault.
La photo de Tony Parker ayant dédicacé un maillot au président Félix Tshisekedi a fait le tour de la toile et a réjoui tous les passionnés de basket du Congo, car l'ancienne star de la NBA est venue présenter un projet d'accompagnement et de promotion des activités sportives en RDC. Le joueur Joseph Abed est impatient de rencontrer son idole en personne.
C'est sa première fois de venir au Congo et je crois qu'on est surexcité de le voir. On a entendu ces moments et en tout cas j'ai manque de mots pour vous dire ça parce que c'est la première fois de le voir en vrai, parce que quand j'étais petit, je le regardais, c'était comme un idole pour moi. Et le voir sur le terrain, présent avec nous, ça serait quelque chose de meilleur pour tout le monde.
Tony Parker a également visité l'installation Bowler's House qui appartient à l'ancien joueur de l'équipe nationale congolaise, Yacine Benfila, où il a pu assister à l'entraînement.
C'est vrai que le foot est numéro 1, mais le basket, je me suis rendu compte qu'il y a plein de talents ici et ils n'ont juste pas les plateformes pour réussir. Et donc c'est pour ça qu'on veut bien sûr travailler sur les infrastructures, amener le savoir-faire, venir régulièrement ici avec nos propres coachs. Amener notre expertise et puis après les développer et les faire devenir pro en France.
La visite de Tony Parker a marqué les joueurs. Pour Anthony Djuma, c'est un véritable honneur de rencontrer quelqu'un qui l'a influencé depuis qu'il est tout petit.
Alors, c'est toujours un réel plaisir hein, parce que même bien avant que je commence à jouer au basket, j'ai déjà entendu parler de lui, tu vois. J'ai commencé à jouer, il était là, je suis en train de jouer, lui il est toujours là, tu vois. Même s'il est plus sur le terrain, mais dans le milieu sportif, tu vois, dans le basket, il est toujours là. C'est vraiment un plaisir pour moi de rencontrer quelqu'un de grand parce que c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui nous a enseigné par son jeu, tu vois, dans beaucoup de choses.
La tournée de Tony Parker s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'ancien meneur de jeu des San Antonio Spurs pour promouvoir le développement du sport en Afrique, notamment à travers le développement d'équipes et d'académies de jeunes.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Mounezero, à la mise en onde, Joselle Morissant. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.